France Culture.
À voix nue, Antoine Couder.
Rodolphe Burger, musicien.
Deuxième épisode, retrouver la parole et puis chanter. 1975-1988. Bonjour Rodolphe Burger.
Bonjour.
Alors hier on a parlé de votre enfance, de votre adolescence. On a oublié de dire que vous n'étiez pas très intéressé par les études, par le collège, que vous aviez plutôt tendance à faire de la mobilette, à jouer du rock'n'roll et à compter fleurette. Mais ça on peut le comprendre parce que finalement l'amour est peut-être la principale source de connaissance du monde et de soi. C'est de cela dont on va parler aujourd'hui, de vos années de formation, vos détestations, vos passions, vos objets de connaissance. Pour commencer, et contre toute attente, vous allez tirer un trait sur la musique. Laissez tomber, jusqu'à ce que des événements fortuits vous y ramènent. À la guitare, et nouvellement au chant. On en a parlé hier. Chanter sur scène a été pour vous un événement traumatique. La première fois, vous étiez, si je peux me permettre, encore un enfant. Vous vous êtes évanoui et c'est un point central autour duquel on va tourner aujourd'hui. Cet acte de prendre la parole ou de la perdre, de prendre connaissance, ou justement de perdre connaissance, sur la scène de la vie. Bachelier, vous vous lancez dans des études de philosophie, ce qui n'est pas du tout attendu. Ou plutôt si, avec ces années de formation avec Eugène Py, dont on parlait hier, votre maître, votre inspirateur. L'idée de faire par soi-même, de penser par soi-même, peut-être aussi sortir franchement du rang, ne pas être cet héritier désigné, un peu contraint, comme votre père, vous l'évoquiez, l'a été. Alors, ce ne sera pas facile à avaler pour vos parents, hein, ce sont des esprits plutôt orientés sciences et techniques, entrepreneuriat, alors philosopher. Est-ce que c'est un métier ? Vous nous le direz. En tout cas, vous allez batailler dur, mais finalement, vous parvenez à vos fins, et ça tombe bien, puisqu'on est à la fin des années 1970, et c'est la consécration de l'école française de philosophie, ce qu'on a appelé la French Theory, avec Gilles Deleuze et surtout Jacques Derrida. Vous avez suivi leur enseignement, vous êtes entré dans le cercle, comme on dit. Aujourd'hui, vous allez nous raconter ce qu'était un cours de philosophie en 1977. Pendant que le mouvement punk commençait à expliquer qu'il n'y avait pas de perspective, no future, disait-on à l'époque. Dites-nous ce qu'on voulait transmettre et ce que l'on transmettait à l'époque. Un cours de French Theory, c'était quoi ?
Il y avait beaucoup d'antagonisme aussi entre, par exemple, vous venez de citer Deleuze et Derrida. Aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que ils appartiennent bien sûr à une époque de la pensée, à la même époque de la pensée. Et il y a beaucoup plus de points communs qu'on ne pouvait l'imaginer à l'époque, mais ils étaient quand même sur des mondes séparés. Et c'était pas du tout pareil d'être un disciple de Deleuze et d'être un disciple de Derrida. En ce qui me concerne, j'aurais bien voulu je rêvais d'une réconciliation entre les deux. En fait, j'aurais voulu être un petit disciple des deux à la fois. Mais il n'y avait pas que deux. Il y avait au même moment il y avait Lacan, avec lequel aussi c'était tendu, hein, entre les philosophes et Lacan, ça n'allait pas de soi, mais néanmoins ça discutait. J'allais au cours de Deleuze, mais j'allais aussi écouter Lacan. Mais on allait aussi, on était une véritable horde comme ça, une petite horde qui se déplaçait à Paris. D'un cours à l'autre, on allait écouter Roland Barthes, on allait écouter Michel Foucault. Donc on était quand même servi, quoi, hein. C'est un véritable âge d'or, comme il y a eu un âge d'or peut-être du rock'n'roll. Il y en a eu un de la philosophie en France. Alors on sait aussi que ça a suscité énormément après de... en ce moment, en tout cas, c'est très très virulent, là, l'espèce de révisionnisme intellectuel qui amène, y compris les ministres de l'Éducation nationale, à s'appliquer à détruire ce passé, à l'accuser de tous les maux. On pense que ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme prend son départ là dans la déconstruction derridienne. On est dans une régression intellectuelle assez affligeante. Je pense que tous ceux qui ont eu cette chance quand même de connaître la pensée vivante de ces en direct et en live, enfin, ne peuvent que voilà être un petit peu consternés par le niveau aujourd'hui et du débat en général et de ce qui s'appelle philosophie ou se prétend-elle dans les médias par exemple.
Oui. Alors, qu'est-ce que vous en diriez, Rodolphe Burger? Comment fonctionnait la transmission, les affects, le système de connaissances?
Je ne peux que parler au fond de mon expérience, de ce que ça a représenté pour moi. Moi, je l'ai découverte, la philosophie, à Strasbourg, même si très vite, je suis venu à Paris, et que c'est là que j'ai pu écouter ce dont nous venons de parler. Le creuset, quoi, ça a été Strasbourg, avec un professeur qui s'appelait Gilbert Rémy, qui était professeur en hippocagne, filière dont j'ignorais absolument tout quand j'étais au lycée à Sainte-Marie. Hein, moi, dans mon Sainte-Marie, où j'avais la tête tout à fait ailleurs, le rock'n'roll, la politique, puis même des études de lettres, c'était proscrit dans ma famille. Donc je me retrouvais avec un pauvre bac D à l'époque, c'était le bac vraiment de ceux qui n'avaient pas le niveau en maths pour faire C.
Donc la philosophie, c'est un peu plus sérieux que la littérature.
Et tout d'un coup, la philosophie, c'est devenu mais quelque chose que j'ai découvert, donc après coup, un peu le jour du bac, parce que là, j'étais bien obligé de me concentrer, de découvrir le bonheur que ça peut être, et le plaisir que ça peut être, de réfléchir un peu, d'essayer de penser un peu. Mais c'est vraiment une découverte après, vraiment comme une sorte de continent qui s'ouvre et dont on m'avait jamais rien dit, quoi. Ah bon, ça existe. La philosophie telle qu'elle s'est révélée, si je puis dire, à moi, à travers ce premier professeur, Gilbert Rémy, c'était comme quelque chose d'extrêmement subversif, quoi, qui venait complètement retourner la culture établie, qui était une invitation, en effet, bon, à penser par soi-même, mais aussi à exercer de manière radicale son esprit critique. Et c'était la découverte qu'on n'était pas seul dans ce souhait, ce désir de... Alors là, peut-être qu'il était un héritage, en effet, de ces années 68 dont on parlait, mais de questionner de manière un peu fondamentale le monde dans lequel on vit.
Mais dans quel but, alors?
Dans un but qui, justement, qui n'est pas un but autre que celui de penser. Quand il y a une phrase de Heidegger, bon, je me souviens, je ruminais à l'époque, même si très tôt... J'avais appris à me méfier énormément de ce Heidegger d'un point de vue politique. Il n'empêche que quand même, on peut difficilement nier que c'était un grand philosophe. Et donc il y avait une phrase de lui, je me souviens que je remâchais comme ça en allemand, c'était « Das Denken handelt in dem es denkt », c'est-à-dire « la pensée agit en tant qu'elle pense ». Ça doit être au début de la lettre sur l'humanisme ou quelque chose comme ça. Donc ça voulait dire que c'était une activité qui se suffisait justement, qui n'avait... D'abord c'était une activité. On pouvait considérer que penser était une activité en soi, à laquelle on pouvait même consacrer sa vie, qui méritait qu'on s'y attache complètement, et qui, au fond, n'avait pas besoin, justement, d'être soumise à un but autre que lui-même, et que tout le reste pouvait en découler éventuellement, alors oui, évidemment, un certain type d'action, d'orientation, etc. Mais qu'en lui-même, que cette activité était nourrissante en elle-même. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai faite tout d'un coup. J'étais dans un rapport de jubilation, comme ça, d'énorme excitation à être en contact, alors que j'étais complètement inculte, j'avais très peu lu, donc j'ai essayé de rattraper mon retard, j'ai lu de manière frénétique. Mais tout d'un coup, alors évidemment, après, un cours de Deleuze, c'est par exemple, c'est dans l'expérience de tous ceux qui ont eu la chance d'assister à ça. On sortait de là complètement galvanisé, c'est-à-dire que même s'il s'agissait là de Leibniz et d'une problématique apparemment complètement ardue et ultra spécialisée de Leibniz, et ben comment se fait-il que des gens qui pour la plupart d'ailleurs n'étaient pas du tout des philosophes ou des étudiants en philo, hein, le public des cours de Deleuze n'était pas spécialement des philosophes, ils sortaient de là avec une énergie folle, une envie de réaliser des choses, une incitation à penser et surtout à bon, son grand message à Deleuze, c'était quand même suivez votre désir, quoi. Allez-y, quoi. Si vous avez la chance d'en avoir, bon, essayez de le suivre et vous embarrassez pas de trop de la question de, est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est légitime, est-ce que allez-y, foncez, quoi. Il y avait une grande générosité dans cette transmission d'une impulsion à suivre son désir. Donc de ce point de vue, c'est vrai que c'est complètement dans l'héritage de 68.
Il y a un pouvoir d'émancipation hein, de l'acte de penser, mais vous allez quand même suivre la voie de la formation à la philosophie, pas simplement d'en prendre un petit peu comme de pimenter votre existence.
Parce que là, quand même, c'était pas qu'une espèce d'alcool fort, plus fort que le rock'n'roll, tout d'un coup que je découvrais, quoi, comme une substance encore plus enivrante. Non, il y avait aussi un sérieux là derrière. Et on ne s'est pas privé d'ailleurs de me le signifier. C'est-à-dire que après l'année un peu idyllique de découverte de ça, je dirais, qui est vraiment une année enchanteresse, quoi, ma première année à Strasbourg, c'était 76-77. C'est des nuits entières à remâcher trois phrases, à discuter avec un ami sur le long des quais de Lille, comme ça. Enfin, c'était des années d'initiation, de découverte, avec l'enthousiasme aussi de ça. Ensuite, bon, c'est un peu plus la douche froide, c'est-à-dire je découvre aussi comment c'est organisé, l'école normale, l'université supérieure, l'université, le sérieux de ça, les concours. Alors heureusement qu'il y avait tous ces cours auxquels j'assistais en parallèle, parce que l'exercice de préparation des concours, c'était moins drôle. C'est pas pour ça que je m'étais engagé en philosophie, mais quand même prendre conscience que c'était une affaire sérieuse, ça oui. C'était venu déjà dès le départ aussi parce que à Strasbourg il y avait, je dirais, un environnement philosophique très particulier auquel j'ai eu un accès assez rapidement. C'était ce qu'on appelait l'école de Strasbourg, qui était incarnée surtout par deux professeurs, Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoulabarthe, qui étaient très proches de Jacques Derrida, mais qui faisaient un travail incroyable à l'université de Strasbourg. Qui était vraiment un travail de beaucoup de traduction, quoi. Et donc Strasbourg était le lieu parfait pour ça. C'était, il réactivait quelque chose qui est très ancien dans la tradition de cette ville. C'était une ville libre et une ville où historiquement, je dirais, beaucoup de choses de l'Allemagne sont passées en France et aussi en direction de l'Italie et vice versa, quoi. C'était comme une plateforme de traduction germano-latine entre le monde latin et le monde germanique.
D'accord, donc c'est de l'interprétation plutôt que de la traduction.
Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus que de la traduction, simplement. C'était tout un travail de lecture. Ils ont publié, par exemple, un livre qui s'appelait L'Absolu littéraire, qui était un travail extraordinaire sur le romantisme allemand. Le premier romantisme, quoi, qui n'a rien à voir avec le romantisme français de Lamartine, etc. C'était un projet philosophique, projet littéraire, projet artistique, un projet aussi politique, un projet de vie. Littéralement, puisqu'ils vivaient en communauté. Et c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup compté pour moi, parce que eux-mêmes, Nancy et Lacoulabarthe, incarnaient ça, une sorte de réactivation d'un projet utopique de communauté intellectuelle. Ils vivaient ensemble. Finalement, ils faisaient un travail philosophique très, très sérieux, notamment en direction de l'Allemagne, une interprétation très rigoureuse et très nouvelle, des grands, de Hegel, Kant et compagnie, de Nietzsche, etc., mais aussi une lecture de Hölderlin, donc des poètes, une orientation vers l'art, un travail en relation avec le TNS de mise en scène, dans le cas de Lacoulabarthe, donc quelque chose aussi comme une incarnation du projet d'une philosophie artiste.
C'est ça. Donc vous avez connu plus intimement par la suite Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoulabarthe, et je me demandais ce qu'ils pouvaient bien penser du jeune élève en philosophie qui avait finalement choisi le rock'n'roll, enfin finalement choisi,
oui.
Qui était reparti aussi.
Je pense que j'en ai jamais vraiment parlé avec Jean-Luc, avec qui je suis resté très très ami jusqu'à la fin, il est décédé récemment. Donc je ne sais pas comment il voyait ça exactement, le jeune philosophe qui se mettait à faire du rock, parce que j'ai recommencé à faire du rock au moment exactement où j'ai commencé à enseigner la philo. Et ça a dû vraiment les surprendre, et je ne sais pas s'ils ont compris grand-chose à ça, parce que moi-même, je n'y comprenais pas grand-chose. Je ne savais pas exactement ce que j'étais en train de faire, où ça allait m'amener. J'obéissais à une sorte d'injonction intérieure, de nécessité. C'était impérieux, il fallait.
On va y revenir, mais je voudrais juste, pour terminer sur ce premier parcours estudiantin, rappeler que vous vous lancez donc dans la philosophie, donc entre Strasbourg, où vous vivez votre vie de jeune homme, entouré d'une femme importante pour vous, d'autres femmes aussi, et puis Paris, que votre père cette fois dit « ça suffit, moi je lui coupe les vivres ». Alors finalement il préférait peut-être la musique à la philosophie, c'est un grand amateur de musique. Il allait régulièrement au festival de Salzbourg, plutôt musique dite classique. Alors comme vous n'avez plus d'argent, vous allez être obligé de gagner votre vie, vous allez vendre des encyclopédies sur les symphonies, et c'est peut-être là où finalement il y a un inconscient entre le fils et le père. Et c'est une expérience, peut-être vous pouvez nous dire un mot, lorsque le futur musicien et apprenti philosophe va vendre des encyclopédies sur les symphonies dans les banlieues rouges pour financer ses études.
Oui, c'est étonnant. Surtout que j'étais obligé en plus de jouer la comédie, c'est-à-dire de faire croire à mon... celui qui m'avait recruté en tant que vendeur d'encyclopédie, faire croire que j'étais un vendeur professionnel et expérimenté, alors que c'est la première fois que je faisais ça, et je faisais ça en plus, bien sûr, de mes études. C'était une technique de vente particulière qui s'appelait la vente par coupon, donc c'est les gens qui découpaient dans un journal quelconque un petit billet demandant à ce que des informations sur l'encyclopédie de la symphonie, le monde de la symphonie, ça s'appelait. Donc, je pense qu'ils s'attendaient surtout à recevoir des informations par courrier, et ils voyaient qu'un soir, ils avaient quelqu'un, moi par exemple, qui débarquait, qui sonnait chez eux, qui disait « Voilà, je suis monsieur monde de la symphonie, et je viens vous en dire plus, et évidemment, essayer de vous la vendre, à crédit. » Donc, je me suis retrouvé dans ce personnage, c'est un peu balzacien comme expérience, quoi, c'est-à-dire le commercial. C'était une expérience intéressante, parce que j'ai eu affaire... à des attitudes, j'étais reçu diversement, hein. Quelquefois je voyais que j'intimidais parce que je représentais la culture. Mon secteur, c'était la banlieue qu'on appelait la banlieue rouge, et donc essentiellement des ouvriers, des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens et qui avaient quand même cette envie de se cultiver, et je venais leur amener toute la symphonie, quoi, toutes les symphonies. Alors il se trouve que c'était quand même Deutsche Grammophon et que les gens n'étaient pas volés. Mais bien sûr que pour Deutsche Grammophon, c'était une manière de fourguer un certain nombre de symphonies qui se vendaient moins bien que les autres. Mais ce qui m'a tout à fait rassuré au début, c'est que le premier client que je suis allé voir, en plus c'était à côté de chez moi, dans le 20e arrondissement, j'étais rue du Pont de l'Heure, il habitait rue Orphi, là, juste à côté. Et je vais le voir, et le mec était très sympa, il m'offre un verre de vin, et me dit d'emblée, bon, vous fatiguez pas la peine de faire un argumentaire, j'ai fait mon calcul, j'y gagne, donc c'est ok, je signe. Mais après, quand même, j'ai fait l'expérience inverse, d'essuyer le mépris aussi, qu'on a quelquefois pour celui qui est un vendeur, un commercial, quoi. Mais j'ai eu des très bons résultats, je convertissais beaucoup de coupons, j'en traitais pas énormément, c'est ce qui étonnait un peu mon chef. Ce qu'il savait pas, évidemment, c'est que je suivais mes cours de philo en même temps et que je consacrais pas tout mon temps à ça.
Vous naviguiez entre plusieurs mondes. Est-ce que vous diriez que vous avez eu une expérience, ce qu'on appelle aujourd'hui d'interclasse, Rodolphe Burger?
J'ai quand même tendance à considérer tout ça comme une expérience très positive. C'est une pratique que les situationnistes appelaient la dérive sociale, quoi. C'est-à-dire le fait de traverser des milieux, des situations, des couches sociales différentes. Et c'est quelque chose que la musique aujourd'hui continue de m'apporter. Ce que je considère comme un privilège, au fond. J'ai l'impression d'avoir connu absolument toutes les situations possibles et imaginables. En termes de milieu, de géographie aussi. Hein, et de taille de salle, de type de salle, de type de public.
Et qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça vous apporte?
Et je trouve que c'est extrêmement sain, quoi. C'est-à-dire que ça empêche tout simplement d'être bloqué dans une position sociale, quelle qu'elle soit. Bon, l'expérience aussi d'avoir été... pendant plusieurs années, à la fois prof de philo et rocker en devenir, mais quand même assidu, quoi. Enfin, je pratiquais ça aussi avec un certain sérieux, un engagement réel. D'être sur ces deux plans, ça a permis aux rockers de ne pas se prendre non plus trop au sérieux, et aux profs non plus. Tu vois. Je veux dire, il y a cette vertu d'être constamment, au fond, dans une conscience de ça. Et d'échapper à l'esprit de sérieux, qui est quelque chose d'extrêmement... juste de se prendre pour ce qu'on est, quoi.
On a vu Rodolphe, philosophe. Rodolphe Burger est aussi un très jeune homme. Et cette fin des années 70, début des années 80, sont aussi une période qui sont marquées par des événements importants dont vous allez peut-être nous parler maintenant. Je vous donne le contexte. Il y a aussi un besoin de voyager, un peu une déroute intérieure, sentimentale, on vous voit en Italie, en Sardaigne, en train de faire du stop. On est en 1979, et là il y a un scooter qui va s'arrêter, qui va vous emmener jusqu'à la ville, et vous allez rencontrer un certain nombre de gens qui vont compter par la suite, hein, notamment un certain Salvador Puglia, qui va devenir votre ami. C'est lui d'ailleurs qui dessinera la pochette du premier disque de Catonoma. C'est lui qui vous emmènera à Stromboli à l'été 1980, où tout va basculer. Je vous pousse un petit peu en vous lançant une citation de Jacques Derrida sur la bonne inspiration qui est le souffle de vie, un souffle qui me rétablirait dans une vraie communication avec moi-même, qui précède tout texte et qui me rendrait la parole.
C'est curieux que vous citiez Derrida, parce que c'est, l'événement s'est produit juste après le colloque de Cerisy consacré à Jacques Derrida, auquel je participais. C'était en juillet 80, et au mois d'août 80, j'ai connu un deuil tragique. Vraiment, la femme dont j'étais fou amoureux s'est suicidée. Ça constitue une césure, vraiment, dans ma vie. C'est-à-dire que, à la suite de ça, je pouvais pas imaginer de continuer. Même ma vie à Paris était devenue impossible, donc j'ai pris la fuite, mais sans trop savoir où aller, j'étais très perdu, quoi. Et c'est en effet mon ami Salvatore Puglia, que j'avais rencontré peu de temps avant, c'est lui qui a eu cette bonne idée, au fond, de m'emmener à Stromboli, plus exactement à Ginostra, qui est le petit hameau qui est vraiment sous le volcan. C'est un volcan en activité. Et Ginostra, c'est un petit hameau où on peut louer des cases comme ça l'été. Les gens qui y vivent sont subventionnés pour vivre là. Leur vie est justifiée parce qu'ils sont là. Ils tiennent la position, quoi, au-dessous du volcan. C'est très impressionnant parce qu'il y a c'est tout noir. Il y a encore les traces de lave de la dernière éruption qui a eu lieu à l'époque 50 ans avant. Rien ne pousse à part des câpres. Il y a une case qui fait restaurant et bar. On mange tous les jours la même chose. Et c'est là que Salvatore m'emmène. Lui-même me pose là et repart aussitôt parce que c'est un endroit qui est difficile. On peut rester bloqué en plus plusieurs jours là parce qu'il n'y a pas vraiment de port. Donc si la mer est grosse, voilà, on est coupé du monde. Alors il y a cette éruption régulière, bruyante, qui éclaire la nuit, le ciel. Et au fond, c'est l'endroit qui m'a calmé. C'est-à-dire que j'étais dans un état vraiment de surangoisse. C'est-à-dire cette surangoisse qui se caractérise par le fait qu'on ne tient plus. On perd. Le sol devient comme brûlant, impossible. La station debout devient impossible. Le mouvement aussi. Enfin bon. Voilà, c'est l'endroit qui m'a permis de trouver un certain calme, néanmoins. Et c'est l'endroit où, en effet, j'ai commencé à chanter. Il se trouve qu'il y avait une guitare suspendue dans le bar, là.
C'est à Ginostra. Alors, il y a quelque chose d'assez mythologique, je trouve, dans cette histoire. Est-ce que c'est votre odyssée? Est-ce que c'est vous avez été aidé par le destin? Il y a plus de demi-dieux, peut-être, en 1980, qui vous incite à choisir la bonne direction. Mais il y a quelque chose d'extrêmement mythologique, je trouve.
Oui, c'est-à-dire quand même mythologique, peut-être tout moment comme ça de la vie où on a l'impression à la fois de toucher le fond et en touchant le fond, de trouver la possibilité d'un certain rebond ou de... Bon. Et cette expérience un peu extrême qui aussi ouvre à la possibilité d'un retour au monde. Pour moi, c'est passé par le chant. Vous disiez, voilà, retrouver la parole. Alors, une drôle de parole. Je pense que j'étais capable de chanter à ce moment-là, mais j'aurais été bien incapable de parler. Ayant perdu la parole, je trouvais la possibilité de chanter à mon propre étonnement. Et immédiatement aussi dans une version publique, puisqu'il y avait des Romains un peu amateurs de sensations fortes qui passaient leur été là et qui organisaient des fêtes et qui, voyant que je jouais un peu de guitare là dans ce bar, m'ont invité à animer. Et je me suis retrouvé donc à chanter en public. Chose complètement nouvelle pour moi. Et donc, simultanément, c'est ouverte la possibilité de chanter, la possibilité de chanter devant les autres, et aussi de découvrir, je dirais tout simplement, la puissance consolatrice de la musique.
Alors, on y vient justement, hein, sur cette présence invisible, ce chanter-parler, c'est-à-dire ce chuchotement, et en même temps cette métrique, cette façon de reprendre vie. Vous avez commencé à entrer dans cette musique qu'on pourrait appeler du blues, mais non pas made in Alsace, mais peut-être melt in Alsace, c'est-à-dire fondu, hein. Il y a une sorte d'alliage, là, il y a le grand forgeron. Et vous commencez à chanter. Alors, il y aura notamment, c'est une première de chanter dans un bar. Et puis plus tard, il y aura quand même l'amplification de la voix. Et là, on va vous entendre cette fois. Françoise Hardy va vous entendre. Et quand elle vous entendra, elle dira oui, ça, il faut écouter. Cette voix amplifiée qui va subjuguer et à partir duquel vous allez chanter cette chanson pour Marie qui va traversé votre œuvre.
Oui, dans des variantes, en effet. Jusqu'à le chanter en français, au départ c'était en anglais, et puis voilà. C'est dans l'album No Sport qu'un soir, comme ça, là, grâce à un dispositif technique, en effet, c'est très important cette affaire. C'est devenu très très important. Quand j'ai recommencé à faire du rock, c'était ça qu'il fallait. C'était l'environnement technique, c'est-à-dire aussi l'ampli. Et après, tout ce qui s'en est suivi, l'expérience du studio, l'expérience de ce que c'est qu'un micro particulier, en l'occurrence c'était un micro à ruban, un instrument particulier qui était une espèce d'instrument bricolé, une guitare sitar comme ça, qui m'a permis tout d'un coup de faire quelque chose qui pour moi était de l'ordre du tabou, de l'interdit, de chanter un blues en français. Là on prend la parole vraiment, hein. Si on chante en français, on est dans un type d'exposition qui va au-delà du chant, on est aussi dans la parole, précisément. Et là voilà, il aura fallu une circonstance à un moment donné pour me permettre de faire ça, donc une version en français, puis qu'en effet je le reprends maintenant très régulièrement, et peut-être sur un autre ton aussi. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui traverse absolument tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici.
Très bien, bon, on en parlera beaucoup plus longuement demain lors de notre troisième épisode, où on abordera cette période où vous avez créé et développé le groupe Catonoma. Donc je vous dis à demain, Rodolphe Burger.
Embrasse Marie pour moi.
C'était À voix nue, réalisation Jean-Philippe Navarre, prise de son Benjamin Reyes, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'entretiens proposés par Antoine Couder, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Oh, n'en dis rien à Marie. Tu peux lui dire que je suis mort, que je suis parti en mer, que j'ai trouvé l'amour au loin. Oh, mais ne lui dis rien de cet endroit. Chérie pour moi, mais je t'en prie, ne dis pas embrasse Marie pour moi, mais surtout ne dis pas. Que je suis enfermé là, dans ce cachot noir et froid, où j'ai perdu la foi. Oh, surtout, ne lui dis pas que je suis enfermé là.
Take a message to Mary. Don't tell her I'm in jail.